L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Trajectoire de 7h à 9h. Découvrez celles et ceux qui bâtissent l'avenir.
C'est qui tue l'entrepreneuriat au Cameroun dès qu'on enlève les taxes? Mais ce sont des promoteurs eux-mêmes. Pourquoi je dis les promoteurs eux-mêmes? Quand tu veux que tous les bénéfices te reviennent, tu as tué ton business. Vous voyez un peu? Les gens doivent, c'est lui qui est au bureau, et je le dis même pour ceux que je travaille avec au bureau, c'est lui qui est au bureau n'est pas censé gagner plus que celui qui est sur le terrain. Personne n'est grand, mais on est petit et on grandit. Il en est de même pour la réussite de l'entrepreneuriat. Si tu veux t'enrichir en un seul jour, tu n'as rien compris. Donc on va progressivement, mais on doit le plus motiver ceux qui viennent de faire la force de l'entreprise. Par exemple, les distributeurs et les producteurs. Parce que mes producteurs gagnent énormément. Et je les donne l'argent tous les jours. Je ne les traite pas avec le mois, parce que j'ai compris que avec le système journalier, quelqu'un travaille avec toute l'énergie, parce qu'il sait qu'à la fin de la journée, il va gagner selon le travail qu'il a fourni. On te dit, si tu fais comme ça, voilà ce qui te revient. Voilà, Jules, ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat ne commence pas toujours avec l'argent. Tout part d'une idée, de la pensée, de ce que tu as développé au fond de toi. Parce qu'on peut te donner l'argent, tu échoues. J'ai commencé ce business avec 40 000 francs. Et quand je commence le business avec 40 000 francs, il est question que moi-même je m'entraîne, que je me mette en action. Ça veut dire que je produis et je dois commercialiser. Mon français, il ne changera pas, ça c'est vrai. Ta manière de traiter les gens ne changera pas,
ça c'est vrai.
Ta manière de traiter les gens ne changera pas, c'est vrai. Ça traite même quoi, ça fait même quoi.
Que tout ce qui est franc n'est pas soi.
Oui, tout à fait.
Trajectoire, la plus grande plateforme de mise en lumière des entrepreneurs à succès du continent.
Trajectoire.
Tous les samedis, 7h-9h.
Le fait de dire que non, il n'y a pas la réussite au Cameroun, c'est compliqué. Il n'y a pas le travail au Cameroun, il n'y a pas les opportunités au Cameroun. C'est très compliqué parce que ce n'est pas les Occidentaux qui viennent donc développer le Cameroun, c'est nous-mêmes. Donc, ce n'est jamais venu dans mon esprit que je vais aller au Canada. Si je pars au Canada pour un voyage d'affaires, je pars pour faire quelque chose et rentrer chez moi pour développer ça chez moi. Je pars en vie d'aller au Canada, aller rester là-bas et dire aux gens que je suis au Canada. Ceux qui le font, je ne suis pas contre eux, mais mon souhait serait que si tu pars au Canada pour apprendre quelque chose, bien pour aller prendre quelque chose, que tu viennes développer ça dans ton pays. Parce que si tu es Camerounais et qu'on entend aujourd'hui que le Cameroun est un pays développé, ça ne sera pas avec les étrangers, ça sera avec nous-mêmes. Et le conseil est simple. Nous devons croire en nous-mêmes parce qu'il n'y a pas un être humain inutile sur la terre. Tous les hommes que Dieu a créés, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Et quand tu as quelque chose, il faut d'abord découvrir ce que Dieu t'a donné, te mettre en action pour que cela puisse exploser, parce que ça vit au-delà de toi, ça dort en toi. Donc il est question de se démarquer, ne pas être de ceux qui crient, je ne peux pas faire telle chose. Qui, moi j'ai la licence, je n'ai pas poussé la brouette, moi j'ai poussé la brouette, ça enlevait quoi hein? Le diplôme, les gens sont bloqués avec des diplômes, les diplômes bloquent plusieurs personnes, ça amène les gens à être complexés pour rien, parce que le diplôme ne va jamais te donner l'argent. Si tu ne te mets pas en action, tu ne vas jamais appuyer sur le diplôme parce que c'est un papier avec l'encre. Tu ne peux pas appuyer sur ça, ça te donne l'argent. Quand tu as faim, tu ne peux pas appuyer sur ce papier, ça te donne la nourriture. Donc que les gens sachent que le blocage qu'ils ont, c'est les diplômes-là. C'est là que j'aime les États-Unis. Quand tu gères le travail, on te dit que qu'est-ce que tu sais faire.
Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous recevez encore les régimes de plantain?
Les régimes de planteurs, beaucoup me promettent seulement ces jours-ci, je ne comprends pas. Les régimes de planteurs, les corps sont petits. Et je ne sais pas ce qu'ils aiment, mais on attend toujours.
Allez, merci infiniment, monsieur Ekouma Ananga François Désiré, promoteur de François Santé et Baume François. Merci, ça a été un moment exceptionnel de partager avec vous sur les antennes de la radio.
Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h, avec Jules Farel. Quand ça finit à la radio, ça continue sur les réseaux sociaux. Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques.
Bienvenue sur Volume 3, la vibe de ta génération. Le samedi matin, oublie la routine.
entrepreneurs, créateurs, innovateurs,
on trace un nouveau parcours.
Leurs histoires et leurs idées sont au cœur des trajectoires.
Il faut introduire les notions d'entrepreneuriat féminin et de leadership féminin pour que nos enfants s'habituent à des figures de leadership féminin.
L'entrepreneuriat, c'est une bataille, c'est la guerre.
Les entrepreneurs sont plus exposés à la santé mentale, aux problèmes de santé mentale que
trajectoire.
Les employés.
Quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ils regardent seulement aux fruits qu'on récolte.
De 7h à 9h, découvrez celles et ceux qui bâtissent l'avenir.
En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas long fleuve tranquille, hein. C'est vraiment un parcours de combattant. On a besoin d'un partenaire, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est-à-dire pour une femme qui entreprend. Et si elle veut avoir vraiment un époux, il faudra que ce soit quelqu'un qui vienne l'accompagner.
Être entrepreneur, c'est beaucoup de défis, beaucoup de challenges.
Aujourd'hui, je suis conseil fiscal à créer SEMA et ce n'est pas une vision que j'ai eue, c'est une vision qu'a eue mon époux.
Trajectoire.
De 7h à 9h,
sur volume 3, la vibe de ta génération.
Avec Jules Farrell et sa team.
Jules Farrell et sa team, chers auditeurs. Yves, rebonjour.
Rebonjour Jules Farrell, bonjour à tous les auditeurs.
Le portrait de la semaine.
Gaëlle Laure Kemfak est une femme entrepreneuse camerounaise, dynamique et innovante, connue pour avoir fondé Kenza Market, qui n'est autre qu'une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agroalimentaires camerounais et des plantes médicinales. Gaëlle Laure Kemfak, après un long séjour en Allemagne, où elle a travaillé chez BMW pendant près de 10 ans, décide de rentrer au Cameroun, d'où elle crée en 2016 Kenza Market, qui fait essentiellement dans la promotion des produits locaux camerounais et offre une gamme de produits variés, notamment des épices, des légumes séchés, des huiles végétales et des produits diététiques. Kenza Market est engagée dans le développement économique local en valorisant les produits camerounais et en créant des emplois pour des jeunes. Kenza Market travaille directement avec les agriculteurs locaux pour s'approvisionner en matières premières. En 2019, Gaëlle Laure Kemfak a également lancé Kenza Beauty, un salon de beauté à Yaoundé où ce salon propose des formations en entrepreneuriat et en diététique. Gaëlle Laure Kemfak s'est inspirée de la pandémie Covid-19 pour se former à la diététique et offrir des services de conseil. Kenza Market distribue ses produits à travers le Cameroun, l'Afrique et l'Europe grâce à un réseau de franchises et de prêts aériens. À ce jour, l'entreprise Kenza Market compte plus de 200 produits et continue de grandir. Nous allons retenir que Gaëlle Laure Kemfak est reconnue pour son engagement en faveur du développement économique local et in Cameroun, car elle encourage les consommateurs d'ici et d'ailleurs d'acheter des produits locaux pour soutenir l'économie camerounaise. Vive Kenza Market, vive Gaëlle Laure Kemfak, vive le Made in Cameroun.
Mais on dira un gars à la place des fêtes à l'occasion de la fête du 1er mai, la fête du travail. Restez connectés. Vous êtes sur volume 3.
Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h avec Jules Farrell. Quand ça finit à la radio, ça continue sur les réseaux sociaux. Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques.
Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission et je vous ai dit à l'entame de cette émission, chers auditeurs, que nous aurons Madame Mechoum Tayou, qui est déjà dans son studio, notre premier invité, avec qui on parlera bien sûr de la contribution de la femme rurale dans la construction des chaînes de valeur et notamment le poisson 237. Et je rappelle que Madame Mechoum Tayou, elle est directrice générale de Sphinx, conseil ingénierie marketing pour TPI et établissement d'économie sociale, économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire. Donc avec elle ce matin, on essaiera de comprendre comment la femme rurale, la femme dans sa globalité, contribue bien sûr à renforcer l'écosystème entrepreneurial. Madame Etium, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à la maison, bienvenue sur volume 3. Je pense que peut-être c'est la première fois de venir à la maison de la radio.
Oui, j'en suis enchantée.
D'accord, donc rapprochez davantage s'il vous plaît. Donc allez, avec vous on va parler bien sûr de la contribution de la femme rurale dans la construction des chaînes de valeur, notamment le poisson 237. Je rappelle que vous êtes la promotrice de Ndemal à souhait, mais c'est un concept qui vise à promouvoir aussi le poisson 237. Comment se porte l'entrepreneuriat au féminin?
Merci Jules Farrel, merci à l'équipe. J'ai un plaisir infini à vous retrouver toutes et tous. J'aimerais par contre que l'équipe soit plus colorée femme. Je vois qu'il n'y a qu'une seule femme et je revendique très fortement que voilà que l'équipe féminine se renforce. Félicitations pour ce que vous faites.
Merci.
Alors sur les femmes rurales, il faut dire que les femmes rurales et le secteur halieutique, elles s'exercent beaucoup plus, elles pratiquent beaucoup plus au niveau des plans d'eau intérieurs du Cameroun. C'est-à-dire, je dis, le Cameroun est bleu parce qu'en réalité, tout notre réseau hydrographique intérieur, les lacs, les fleuves, les rivières, forment à peu près 4 millions d'hectares de plans d'eau. 7% de la superficie de notre pays est occupée par ces plans d'eau et évidemment, ça donne lieu à une grande culture de la production de poissons. Dans cette aquaculture domestique qui est pratiquée par les riverains dans ces villes, traversées par les fleuves, est donc dominée par les femmes. Et les femmes, oui, les hommes pêchent, mais les femmes sont à près de 70%, et on va dire au moins à 70%, dans toute la chaîne de transformation post-capture.
Oui.
C'est-à-dire que dès que les hommes ont ramené le poisson, la suite de la chaîne appartient aux femmes. C'est-à-dire que les femmes vont s'occuper de la transformation, elles vont s'occuper de la distribution, de la commercialisation, elles vont s'occuper aussi de la restauration. Donc, et quand j'y parle, lorsqu'on parle de transformation, il faut voir les différents états de poissons qu'on retrouve sur les marchés. Le poisson salé, le poisson fumé, le poisson grillé, ce sont les femmes qui les transforment. Il faut voir les différents modes de conservation ou d'emballage pour pouvoir les distribuer. Les femmes ont un savoir-faire extraordinaire là-dessus. Pratiquement chaque espèce a son type de panier de transport, si vous l'avez déjà remarqué. Ça, c'est des savoir-faire féminins. Donc, c'est des métiers vraiment qui sont totalement féminins. Donc, on doit dire que la femme rurale est le pivot de la production, de la transformation du poisson, notamment d'aquaculture, dans le pays.
Mais ça fait pratiquement plus de 3 ans ou 4 ans. Vous travaillez au service, vous travaillez à promouvoir le secteur halieutique, notamment avec le concept de Malasoué qui est la fête du poisson. Mais pourquoi avoir choisi de travailler dans ce secteur alors qu'il y a plein d'autres secteurs? Vous aurez dû peut-être travailler là-bas, mais vous avez choisi le secteur du poisson. C'est parce que les femmes aiment le poisson bien, parce que les femmes aiment du piment.
C'est surtout parce que en termes de sécurité alimentaire et en termes de souveraineté alimentaire aussi, il faut s'intéresser à ce que la nature nous a donné. Le patrimoine halieutique du Cameroun est formidable. C'est-à-dire que nous avons le deuxième réseau hydrographique de l'Afrique centrale, après le Congo, et je pense peut-être même de l'Afrique, après la RDC. C'est formidable, c'est-à-dire que c'est un potentiel, c'est là, il faut pouvoir le développer. Maintenant, nous avons aussi tout ce qui est notre façade maritime. Nous avons 400 km et vous voyez bien que ça donne un champ, on va dire, naturel, en plus des zones agroécologiques du Cameroun sur l'agriculture, qui fait que ça nous a semblé très important de jeter un regard et de contribuer à tous les autres efforts de l'État, des institutions, des coopératives, de toutes les parties prenantes pour ce secteur-là. C'est-à-dire que quand vous prenez une ville comme Douala et dans tous les centres urbains, en ce qui concerne la restauration urbaine, les braiseuses de poissons par exemple, on peut dire qu'elles tiennent la ville. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux et vous imaginez une semaine où les braiseuses de poissons ne sont pas là, vous imaginez bien le nombre de personnes qui n'auront pas à manger.
Donc, le mbunga se fait même de plus en plus rare sur le marché.
Voilà, et sur les cartes aujourd'hui, le riz mbunga, personne ne dit non.
Ouais.
Donc quand vous regardez...
Ou la banane malaxée avec du mbunga.
Avec du mbunga. Quand vous regardez nos habitudes alimentaires, notre plat mythique, le ndolé, mais le ndolé crevette, c'est un produit halieutique, la crevette. Ouais. Donc quand vous êtes sur l'axe routier Douala Yaoundé, vous ne manquez pas les Bessonda, par exemple, dès qu'on arrive à Edea. Donc tout ce patrimoine-là, cet immense patrimoine, méritait à notre avis d'être valorisé. C'est ce qui nous a fait aller sur Ndemalasoué.
Ndemalasoué qui est 50e édition, sera 50e édition en 2026.
2026, on fête les 5 ans.
Les 5 ans, 5 ans au service, bien sûr, de la promotion du poisson 237. Molière.
Un mot à l'endroit des femmes de Yopoué.
Oui, alors les femmes de Yopoué, elles sont urbaines plutôt que rurales parce que la ville a beaucoup poussé et la ville est déjà, on va dire quoi, installée à Yupwe. Et vous allez remarquer qu'à Yupwe, effectivement, les mamans sont dans le segment post-transformation dont je parlais. Elles sont des commerçantes, elles sont des marieuses, elles sont des commerçantes et elles sont des transformatrices. Parce que c'est elles qui vont sécher le poisson, c'est elles qui vont faire braiser, c'est elles qui font griller le poisson, c'est elles qui sont, elles sont dans la restauration. Donc ça peut être la restauration de rue ou la restauration plus professionnelle dans les hôtels et tout cela. Mais vraiment, la femme est un vrai pivot.
Bon, puisque vous êtes souvent avec ces dames, comment est-ce qu'elles font? Puisque quand je m'en vais par exemple chercher le poisson à 5, elles sont là. Comment est-ce qu'elles font entre famille, foyer, société, ça se passe comment?
Alors, elles ont une organisation redoutable. Elles ont une organisation redoutable qui fait entrer le travail qu'elles font parce que c'est leur métier. La cagnotte familiale dépend aussi de ce qu'elles ramènent. Elles créent du revenu qu'elles rajoutent au revenu de la famille. Donc, c'est une organisation redoutable. Il y a beaucoup de mamans, souvent d'ailleurs monoparentales, je vous assure, qui autonomise les enfants très rapidement. C'est-à-dire que quand à 4h du matin, elle est déjà sur les berges, elle sera rentrée à 6h avant d'apprêter son enfant pour l'école.
Ouais.
Et quand l'enfant rentre à 15h, elle sera rentrée du marché pour avoir fait à manger. Ou alors, si elle a déjà fait à manger, les enfants savent exactement là où ils doivent retrouver leur repas. Voilà, donc, en organisation, je vous assure, ce sont des reines du management. Elles ont des qualités d'organisation extraordinaires. On devrait apprendre d'elles.
D'accord. Madame Tayou, dites-nous, est-ce que vous pensez au volet formation chevaux Chendema Lassoué?
Oui, bien sûr. La formation est un volet important. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes un festival et pas une foire. Parce que les activités de restauration, de consommation, c'est bien. Mais après, ces dames ont un véritable savoir-faire qui reste artisanal. Et tout ce qui est formation les aide donc à le rendre plus professionnel. Donc, nous allons justement...
Les formations dans quel secteur? Écaillage ou quoi? En quoi consiste concrètement la formation? Alors, la formation de ces femmes, parce qu'on parle bien sûr de la contribution de la femme rurale dans la construction des chaînes de valeur, notamment la chaîne de valeur halieutique poisson 237.
Alors, merci Farel de le resituer comme ça. Les formations concernent un renforcement de capacité, ouais, sur les savoir-faire que les femmes ont déjà, pour les amener à être professionnelles. Et justement, la cinquième édition va amener un clou autour d'un programme que nous, ouais, allons publier. La mairie a promis de nous accompagner là-dedans, d'avoir un programme de professionnalisation des braiseuses de poisson. Parce que vous savez, faire cuire du poisson à la braise, ça demande de connaître les équipements.
Ouais.
Donc le foyer de braise n'est pas seul, il n'est pas thermorégulé, il n'est pas... Ça demande de connaître les consommables. Aujourd'hui, les femmes, en utilisant le charbon de bois,
la qualité du charbon,
ont une empreinte écologique très forte et ont des risques sanitaires liés à cela. Donc, il faut qu'on s'en occupe. C'est leur travail. Donc, c'est un risque professionnel établi. Donc, il faut s'en occuper. Elles ont aussi, elles servent les gens dans tout ce qui est pratique d'hygiène, manipulation, au même titre que le personnel d'un hôtel. Cette dame doit être formée, voilà, oui, d'un hôtel, d'un restaurant par contre, d'un restaurant professionnel, elle doit être formée là-dessus. Donc on fait beaucoup de renforcement de capacité, par exemple sur les techniques de manipulation,
oui,
sur les conditions d'hygiène, sur les techniques d'emballage, sur les techniques de conservation et sur les techniques d'assaisonnement. C'est important.
Sans oublier les équipements. Plus que cette chaleur,
oui,
les yeux,
oui,
voilà.
Oui, nous avons un partenaire équipementier justement qui développe des équipements adaptés. Et
d'accord,
je pense que ils auront un plan, tout un pavillon l'an prochain sous le label de la cuisson propre.
La femme, c'est la mère de l'humanité, c'est le symbole de la fécondité. La femme est une trilogie. Elle est la mère, elle est l'épouse et aujourd'hui, elle est l'entrepreneur. Et de plus en plus, elle ose, innove et propose des choses exceptionnelles. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr cette attention particulière sur la femme. Celle-là qui, au-delà, bien sûr, de donner naissance à des vies, donne également naissance à des sources de vie. Allez donc, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les antennes volume 3 et dans un instant, on prendra bien sûr la pub. Mais avant cela, Divan.
tu as ta question.
Oui, alors madame, vous avez parlé tout à l'heure d'accompagner les pouvoirs publics dans leur mission. Alors, le véritable problème qui pose parfois la femme rurale, c'est une question de financement. Alors, s'il faut poser la question là, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous allez dire ?
Trajectoire de 7h à 9h. Découvrez celles et ceux qui bâtissent l'avenir.
La première qualité d'un entrepreneur, c'est sa vision. L'innovation, ce n'est pas de faire quelque chose qui n'a jamais existé, mais c'est de faire les choses différemment.
En entrepreneuriat, on se fait initier. On ne se fait pas former.
Ouais.
Parce que la formation fait beaucoup plus de ressortir le volet académique qui est beaucoup plus théorique.
Si vous formez des gens dans les sciences dures, et vous formez les gens dans la technologie, vous n'avez pas besoin de professionnalisation.
L'initiation dans l'entrepreneuriat, c'est là où un maître vous tient entre les mains, maître entre guillemets, ou quand il faut voir même le profil de celui qui vous tient entre les mains.
Nous suggérons aussi fortement qu'il y ait des actions de mentoring, que des femmes qui sont déjà aujourd'hui des leaders accomplis et reconnus tiennent la main à celles qui aspirent, aux aspirantes, à l'entrepreneuriat et à devenir demain des leaders.
Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas les personnes les plus brillantes. C'est les personnes qui ont l'art de se connecter à d'autres personnes.
Trajectoire sur volume 3, la vibe de ta génération.
Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h avec Jules Farel. Quand ça finit à la radio, ça continue sur les réseaux sociaux. Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques. Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h avec Jules Farel, animateur radio et TV, Douala, Cameroun.
Nous sommes toujours dans la deuxième partie de l'émission Trajectoire et nous échangeons bien sûr avec madame Mechoum Tayou. Elle est bien sûr directrice générale de Sfinch Conseil Marketing Ingénierie TPE et Économie Sociale et Solidaire. Avec elle, on parle de la contribution de la femme rurale dans la construction des chaînes de valeur. On sait tout naturellement que pour les auditeurs, lorsqu'on parle de chaînes de valeur, il s'agit bien sûr des acteurs qui interviennent dans un secteur. Ça peut être le secteur de la transformation du manioc, la transformation de la banane plantain, mais aujourd'hui on parle bien sûr du poisson 237. Madame Etchoum, rebonjour une fois de plus sur les antennes de volume 3.
Bonjour.
Allez, Molière est dans le studio, sans oublier Divan qui est là. Alors, c'était quoi la question, Divan? On revient sur ta question avant la pub. Alors, je posais la question tout à l'heure, Jules Farel, sur les problématiques de financement, parce qu'on parle de femmes rurales et on sait que voilà, elles sont confrontées beaucoup plus sur un problème de financement. Alors, ma question était dans ce sens-là, madame
Mechoum.
Madame Mechoum.
Alors, merci, mais je vais peut-être vous surprendre de vous dire que la première préoccupation n'est pas le financement. C'est-à-dire que le financement, c'est l'une des ressources, mais qu'il faut apporter en mutualisation des autres ressources et puis les utiliser en batterie, c'est-à-dire que tout ensemble pour obtenir les résultats. C'est-à-dire les femmes rurales, elles font face à plusieurs autres défis qu'il nous semble utile de prendre en main de façon intégrée. On pense à la gouvernance halieutique, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que pour toutes les difficultés auxquelles elles font face, il faut qu'elles soient à la table des décisions pour amener les décideurs, pour amener la décision publique à des solutions concrètes,
oui,
qui apportent des solutions à tout ce à quoi elles font face. C'est vrai qu'aujourd'hui, la présidente de l'interprofession à Aquacol du Cameroun est une dame, mais derrière tout le réseau de coopératives, il faut qu'on ait une politique de promotion de la présence des femmes à ces instances de décision. Nous avons aussi tout ce qui est infrastructure.
Oui.
C'est-à-dire que la chaîne de froid chez nous est totalement défaillante. Alors nous lançons un véritable cri de cœur aux équipementiers,
oui,
de produire des équipements de la chaîne de froid. Nous avons des grands talents au Cameroun, mais il est temps d'avoir des réfrigérateurs camerounais, d'avoir de la logistique, d'avoir des réfrigérateurs camerounais, peut-être solaires, peut-être hybrides, d'avoir des fumoirs, vous savez.
Si on a déjà les couvertes, ça veut dire que les réfrigérateurs peuvent arriver.
Voilà, très bien, très bien. Et d'ailleurs, pour l'opérateur des couveuses, il est aussi le partenaire équipementier de Ndema Lassou.
D'accord.
Et on produit des choses déjà fantastiques. Les prototypes, d'accord, sont déjà disponibles. Donc, après l'équipement, il y a les préoccupations de santé et de sécurité au travail.
Ouais.
Elles sont dans ce métier pour toute leur vie. C'est le rôle d'un métier, mais elles sont exposées aux combustibles qu'elles utilisent. C'est un travail pénible qui sollicitent le corps physiquement, ça veut dire qu'il y a des risques professionnels associés à ce métier et il faut donc penser à préserver la santé de ces dames pour qu'elles préservent aussi notre santé à nous, les consommateurs.
D'accord.
Donc, vous voyez que le financement, il vient après, c'est vrai, mais il faut se pencher et de façon très sérieuse sur des solutions de financement adaptées.
D'accord.
Les dispositifs actuels sont défaillants.
Allez, donc, chers auditeurs, vous comprenez pourquoi cette semaine également, on a célébré la Journée internationale de l'alimentation, la Journée internationale de la femme rurale, mais autant d'événements qui permettent bien sûr de célébrer tous ces acteurs qui contribuent à donner plus d'énergie aux enfants. Molière, une question, et après on prendra notre deuxième invitée, elle c'est Madame Jessica Mambo, présidente de l'association Égalité pour tous. On aura l'occasion de voyager au tréfonds de la trajectoire de cette association qui fait des choses exceptionnelles.
Merci Jules Farel, rebonjour Madame Metchoum. J'ai deux questions. Oui, la première, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes dames, ces jeunes filles, vos filles, qui restent à la maison
nos
parfois.
Nos petites sœurs.
Oui, nos petites sœurs, qui pensent parfois qu'avec leur diplôme, elles ne méritent pas faire certaines activités. Certaines activités, comme par exemple la braise du poisson, qui donne peut-être plus d'argent que celui-là qui est dans le climatiseur. Bon, oui, ça c'est la première question. Oui, la première question. La seconde, comment est-ce que vous faites pour accompagner ces dames, ces femmes rurales?
Alors, la première question sur les petites sœurs qui valorisent les diplômes, je veux dire, c'est notre faute. Parce que c'est nous qui avons valorisé le diplôme, vous savez. C'est nous qui leur avons mis, c'est un parent quelque part qui a inscrit son enfant dans une filière, on va dire, à diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte de formation professionnelle dans les métiers agro-pastoraux, dans les métiers halieutiques, existe. Alors, nous, ici, autour de la table, combien d'entre nous ont inscrit un petit frère, une petite sœur au lycée technique agricole de Yabassi ou alors à l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi? Entre guillemets, il a aujourd'hui un nouveau nom. C'est à ce niveau-là qu'on fait ses choix, en réalité. C'est-à-dire que vous ne formez pas et vous n'éduquez pas un enfant toute sa vie, c'est-à-dire que pendant 25 ans à peu près, à travailler dans un bureau climatisé en costume, en tailleur ou en talons hauts, pour qu'à 25 ans, effectivement, vous lui disiez que non, mais tu sais, tu peux gagner ta vie même dans la braise. Non. C'est-à-dire que la responsabilité est la nôtre, celle des formateurs que nous sommes, celle des éducateurs, déjà de donner de la considération et de valoriser ces métiers-là. Parce que chacun veut faire un métier dont il se sent fier. Donc, si on a dévalorisé et on a considéré qu'une femme qui grille du poisson dans la rue, c'est une femme qui a raté sa vie, pourquoi voulez-vous que ça incite les filles à aller là-dedans? Ça ne va pas inciter les filles à aller là-dedans. Il faut par contre dire à tout le monde, sur toutes les antennes, ouais, qu'une braiseuse de poisson est un agent économique qui gère 12 fournisseurs. Elle gère la poissonnerie, le bois, le charbon, le plantain, le manioc, l'huile végétale.
Hein, c'est un excellent manager.
Le miandole, etc. Donc, elle est un véritable agent économique avec tout un écosystème d'autres acteurs pour lesquels elle est un client.
D'accord.
Donc là, si on va inverser la tendance de cette façon. Donc, faites former vos enfants déjà à ces filières-là. Donnez plus de considération à ceux qui exercent ces métiers-là. Et vous allez voir que tout le monde sera fier de. Il y aura un engouement vers ces métiers.
Allez, chers auditeurs, restez connectés. La deuxième partie de l'émission Trajectoire sur les antennes de volume 3. Mais on se retrouve tous les samedis matin. Deuxième invité dans un instant dans vos oreilles.
Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h avec Jules Farel. Quand ça finit à la radio, ça continue sur les réseaux sociaux. Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques. Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h avec Jules Farel, animateur radio et TV, Douala, Cameroun.
Alors, nous sommes toujours dans la deuxième partie de l'émission. Elle, c'est Jessica. Jessica, vous allez très bien ce matin?
Oh, ça va bien, Farel, et toi?
Ça va,
on
très bien, ça fait
ici.
Plaisir.
On ouais. Se voit ici, ok. Bonjour, monsieur Jules, comment d'accord. Vous allez?
Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'accueillir sur les antennes de volume 3.
Oh, c'est toujours un plaisir d'être en charmante compagnie.
Voilà. Allez, Jessica Mambo, présidente de l'association Égalité pour tous.
Oui, alors, je suis effectivement présidente de l'association Égalité pour tous. une association qui milite pour l'insertion professionnelle.
Oui.
Alors, avant d'entrer dans les détails de ce que nous faisons, j'aimerais déjà revenir sur ce que Mme Taïwa a dit tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, elle a évoqué le problème, elle a fait savoir que le problème de financement n'est pas la seule difficulté, mais c'est l'une des difficultés que rencontrent certains entrepreneurs.
Ouais.
Et elle aussi, par la suite, a parlé de l'appui technique, du besoin d'être accompagné au niveau de la technique.
Ouais.
Mais à côté, ce qu'on oublie aussi très souvent, c'est la valorisation des ressources humaines.
D'accord.
Parce que quand on parle de difficultés d'accès au financement, d'appui technique, il faut aussi qu'on sache une chose, les entreprises ne se gèrent pas toutes seules. Derrière cette magie des entreprises, il y a un management, il y a une organisation qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas l'argent qui produit l'argent, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, mais c'est l'homme qui produit l'argent.
Ouais.
Donc, il faudrait aussi penser réellement à mettre un accent particulier sur l'accompagnement et la gestion des ressources humaines. Parce que plus on a un employé engagé et motivé, et mieux nous avons l'assurance d'avoir un chiffre d'affaires vraiment croissant. Donc, c'est justement à ce niveau que nous intervenons.
D'accord.
Parce que nous nous sommes rendus compte que les entreprises aujourd'hui, leur seule difficulté, ce n'est pas l'accès au financement ou encore l'appui technique, mais l'une des principales difficultés qu'elles rencontrent, c'est les ressources, la gestion des ressources humaines. Comment recruter ou encore comment avoir un employé? Sachant que nous sommes dans un environnement où le tissu économique représente 98%. Ça veut dire que les TPE sont en grande majorité et elles recrutent en masse. Sauf qu'elles n'ont pas toujours le pouvoir, je vais dire, d'achat, ou alors elles n'ont pas les ressources financières pour pouvoir recruter les bonnes ressources dont elles ont besoin.
Ouais.
C'est pourquoi nous, justement, nous leur proposons des solutions adaptées à leurs besoins, c'est-à-dire des ressources qui leur permettent non seulement nous leur proposons des ressources motivées, engagées, mais aussi des ressources là qui ont besoin de prouver, celles-là qui ont besoin d'expérience. Ça veut dire tout simplement que nous mettons à la disposition les jeunes diplômés.
Vous mettez à la disposition des entreprises et les jeunes diplômés. Mais d'un côté, nous avons Mme Etchim Tayo qui mène un combat extraordinaire dans la préservation ou la promotion du poisson 237. Mais de l'autre côté, on a Jessica Mambou qui milite pour l'égalité pour tous. Pourquoi toute cette énergie mobilisée pour promouvoir l'égalité pour tous, cette association qui existe depuis combien d'années déjà?
Nous existons depuis 3 ans.
Depuis 3 ans. Et l'association compte combien de membres?
Alors, ça dépend. Vous parlez des membres dirigeants ou bien nous sommes plus de 1500.
Plus de 1500. Ça veut dire que c'est des gens pour voir d'achat. Donc, quand on va organiser une démarche, ils vont déguster du poisson là-bas. Alors, donc, Jessica, dis-nous un tout petit peu, c'est quoi concrètement l'objectif de votre association?
Alors, l'objectif de notre association est de permettre à toutes les personnes à la recherche d'un emploi de pouvoir trouver un emploi.
Oui.
En gros, nous estimons que chercher un emploi est le premier travail d'une personne dans le besoin, d'une personne en situation de recherche d'emploi. Parce qu'on se dit, quand on recherche un emploi, le premier réflexe qui nous vient, c'est déposer notre CV. Or, déposer le CV, tout le monde le fait. On fait le porte-à-porte, on va dans les entreprises, on dépose quand on ne nous contacte pas. On se dit, on n'arrive pas à être recruté parce qu'on n'a pas la bonne connexion, on n'a pas le bon réseau. Et tout ça, justement, ça se travaille. La recherche d'emploi s'articule autour de 8 modules que nous avons développés en interne.
Est-ce qu'on peut voir bien sûr ces modules, s'il vous plaît?
Alors, le premier module, c'est le projet professionnel.
Oui.
Vous savez, quand on recherche un emploi, je dis n'importe quoi, quand on a un bac plus 3, une licence, un BTS, un master en comptabilité, on se dit, ils s'orientent tous vers, vers les banques, vers des cabinets comptables. La fiscalité. Quand ils ont leur licence, le premier reflet qu'ils ont, c'est de s'il y a une offre de responsable financier ou directeur financier
ou RH,
ils vont aller candidater alors qu'ils n'ont aucune expérience, c'est-à-dire ils n'ont même pas fait un stage de leur vie. Mais après l'obtention de leur licence, ils iront candidater pour les postes comme directeur, comme responsable.
Ouais.
Or, ce type d'offre, quand on met déjà directeur ou responsable, ça veut dire que vous avez déjà un background, vous avez déjà un minimum d'expérience.
D'accord.
C'est la raison pour laquelle, quand on sait qu'on veut, après nos études, de pouvoir être directeur, ça se prépare.
Ouais.
En première année, vous êtes censé faire un stage académique.
Ouais.
C'est une première expérience. En deuxième année, vous êtes censé faire au moins 2 stages. Un stage académique et un stage professionnel. Quand on cumule les deux, vous verrez que vous rentrez compte que ça fera déjà 2 ans d'expérience.
Ouais.
Ce qui fait qu'en troisième année, vous allez candidater ou bien vous devez candidater pour éviter de perdre du temps à candidater pour les opportunités comme directeur responsable.
Sachant que vous êtes en troisième année, vous avez déjà cumulé 2 ans d'expérience en parlant des stages, vous pouvez chercher des emplois en tant qu'assistant.
Alors, comment on fait dans un contexte où les gens ne veulent plus faire dans le volontariat et le bénévolat?
Ah, c'est là justement le principal problème. Parce que l'expérience, on ne l'acquiert pas uniquement. Les entreprises, il faut savoir que les entreprises ne veulent pas ceux qui viennent s'essayer. Quand vous êtes à la recherche d'un emploi, on veut de l'expérience. On veut quelqu'un qui soit autonome, on veut quelqu'un qui soit créatif. Et si justement vous n'avez pas la capacité de convaincre l'entreprise sur votre expérience ou encore sur votre créativité parce que vous n'avez même pas fait un stage, soyez sûr d'une chose, vous ne serez pas contacté.
D'accord.
Parce que les entreprises ne recrutent pas par charité. Le bénévolat est très important, surtout pour celui qui n'a soi-disant pas le bras long. Et encore le bras long là, dont on parle, ou encore le réseau, tout ça se travaille. Hein. C'est pas juste de la.
Et même s'il faut, par exemple, s'appuyer sur le réseau, il faut aussi que la personne qu'on recommande soit compétente.
Bien sûr. Et le réseau là, justement, ça fait partie de nos modules. Et le réseau là, justement, on peut commencer à construire un réseau en partant de rien. Je prends un exemple. Dans les universités, les écoles de formation, on organise constamment des conférences. On fait intervenir des chefs d'entreprise. Mais quel est le réflexe des étudiants? Dès qu'on dit, je dis n'importe quoi, le directeur de volume 3 est présent. Premier réflexe, ok, ah, moi je rentre chez moi, ma maison m'attend. Or, demain, vous irez dans cette entreprise, déposer votre CV, trimer pour rencontrer ne serait-ce que l'ombre du directeur, vous ne pourrez pas le rencontrer. Or, il est venu vers vous, mais vous avez décidé de rentrer chez vous parce que tout ce qui vous intéresse, ce sont les cours.
Le WhatsApp, rentrer, regarder, ne veut sauter le vie avec les copines.
C'est le premier levier par lequel les étudiants en particulier devraient passer pour pouvoir avoir les contacts.
D'accord.
Parce que lorsqu'on organise des événements dans les écoles, ce sont les chefs d'entreprise qui viennent et ils sont ouverts. Et rassurez-vous que quand les chefs d'entreprise viennent dans les écoles, leur but c'est d'attiser le capital sympathie, dire qu'ils sont là pour la jeunesse, qu'ils soutiennent la jeunesse. C'est justement l'occasion pour ces étudiants de dire: bonjour monsieur, je suis Jessica Mambo, je suis étudiante en communication, j'apprécie vraiment le travail que vous faites à volume 3. Cependant, je cherche à effectuer un stage chez vous, mais je n'arrive pas. Vous donnez votre CV. Terminé.
D'accord. Alors, donc, Divan, la question, et après on revient pour la suite.
Alors, merci beaucoup, Madame Jessica. C'est un plaisir de vous écouter sur les antennes de la radio. Vous avez parlé de 8 modules, justement, pour un chercheur d'emploi, pour un étudiant qui cherche du travail. Mais vous êtes arrêté au premier point, qui est le projet professionnel. Je suis sûr que beaucoup de gens nous écoutent sur les antennes de la radio. Ils voudraient brièvement avoir ces 8 modules-là. Donc, si vous pouvez revenir un peu plus là-dessus, ce serait très important. Merci.
Merci. Alors, le premier module, comme je disais, c'est le projet professionnel. Dans le projet professionnel, c'est votre vie sur du papier. Il y a le bilan de personnalité, le bilan de compétences. Et à partir du projet professionnel, il y a les perspectives de carrière. Dans une vie, on a toujours un idéal. C'est vrai que nous sommes dans un contexte très difficile où on se dit, on n'a pas le droit de rêver. Ou encore, le rêve, c'est pour les personnes, les opulents, ceux qui ont sonné avec une cuillère en or dans la bouche. Mais il faut toujours partir du postulat qu'il y a un idéal. Quel est mon idéal de carrière? Est-ce que je souhaite être directeur des ressources humaines? Est-ce que je souhaite être directeur informatique? Quand vous allez justement intégrer... Quand vous allez pouvoir, dans le projet professionnel, mettre votre idéal de carrière, ça va orienter votre recherche. Le deuxième module, c'est l'offre d'emploi. Comment analyser une offre d'emploi? On ne candidate pas pour toutes les offres d'emploi. Troisième module, le CV. Et le quatrième module, lettre de motivation. Parce que le CV et la lettre de motivation sont tributaires d'une offre d'emploi. Pour qu'un recruteur puisse vous contacter, et il faut le préciser, le CV n'est pas fait pour qu'on vous recrute. Ah, ça, pas du tout. Le CV est fait pour qu'on vous appelle. C'est juste pour un appel, pour un entretien d'embauche. Ensuite, vous avez le réseautage. Le réseautage, justement, comme je parlais tout à l'heure, là, je pense que je suis au cinquième point. Le réseautage, il s'agit justement de comment se construire un réseau en partant de rien. Quand je participe aux événements, quels sont les événements auxquels je devrais participer? Qui sera à ces événements? Comment je compte les aborder?
Quelles sont même les thématiques qu'on va aborder?
Est-ce que quand je me présenterai avec je serai à cet événement, j'irai avec mon CV? Bon, moi, je ne préconise pas toujours aussi le CV, sauf si c'est dans une école.
Ouais.
Si c'est en dehors de l'école, si c'est dans un autre contexte, allez plutôt avec une carte de visite. Parce que les CV, très souvent, même si la personne est bienveillante, elle aura tendance à mettre votre CV
et même le bloc-notes.
Donc allez, ça c'est pour les échanges de contact.
Ouais.
Parce qu'on va dans un événement pour pouvoir avoir le contact. Donc allez à.
Qu'on pourra transformer aussi en contrat.
En contrat, exactement. Donc avant d'être étudiant ou chercheur d'emploi, vous avez d'abord une identité professionnelle. Et cette identité professionnelle peut être animateur radio, journaliste, même si vous êtes étudiant, vous pouvez tout simplement mettre journaliste junior, journaliste étudiant, sur votre carte de visite, il faudrait que vous puissiez vous identifier par rapport à votre profession.
D'accord.
En sixième point, il y a LinkedIn. Comment saisir les opportunités à l'échelle nationale et internationale? Nous vous montrons cela. De nombreuses personnes aujourd'hui trouvent des emplois étant sur ce réseau social professionnel LinkedIn.
D'accord.
Ensuite, vous avez l'entretien d'embauche. Il y a des questions qu'on vous pose en entretien d'embauche, vous avez l'impression que ce sont des questions pièges. Je prends un exemple. Quelles sont vos prétentions salariales? Prétentions salariales, on a tendance à dire je veux 100 000, je veux 500 000. Un, il faut tenir compte de la taille de l'entreprise. Deux, il faut tenir compte de l'ancienneté de l'entreprise. Et trois, il faut prendre en compte vos dépenses mensuelles. Si vous avez 10 000 de loyer, si vous avez 5 000 de pension alimentaire, l'école des enfants coûte 10 000, je dis n'importe quoi, vous êtes à 25 000. Quand vous irez en entretien d'embauche, vous devez dire, ok, quelles sont mes prétentions salariales? Je compte, j'aimerais toucher entre 50 000 et 70 000. Je dis n'importe quoi. Donc, toujours donner une fourchette. Donc, tout ça, justement, est le dernier point. Et le dernier point, c'est la prise de parole en public.
D'accord. La prise de parole en public.
Pareil, tu permets, s'il te plaît.
Allons-y.
La prise de parole en public, justement, on a l'impression que la prise de parole, c'est quand il y a 10-5 personnes. Mais la prise de parole peut être un recruteur, peut être un client. Il faut savoir convaincre ces personnes. C'est pourquoi ce module est très important et c'est ce que nous faisons au sein de l'association.
Et au sein de l'association, il y a aussi des activités que vous organisez. Je pense que d'ici peu, vous aurez bien sujeuné.
De l'emploi et de la formation.
L'événement, c'est pour quand?
C'est du 12 au 14 novembre du côté de Anikadji Galerie Bounaprizo.
Oui.
C'est un événement qui consiste à réunir justement tous les acteurs du marché de l'emploi. À cet événement, vous avez la possibilité de trouver des emplois et des stages. Après 5 éditions, on compte plus de 306 contrats qui ont été signés.
Ouais.
Grâce à cet événement, des directeurs des ressources humaines sont là, des chefs d'entreprise sont là. Et vous avez encore beaucoup d'autres formations, comme celle dont je viens de citer, dispensées là par des spécialistes des ressources humaines.
Je pense que les jeunes doivent également savoir saisir les opportunités et aller où il y a bien sûr ces opportunités, parce qu'il faut savoir identifier même l'opportunité avant de saisir.
Bien sûr.
Et quand on a un événement comme ce que tu organises, je pense que ça permettra bien sûr à tous ces jeunes et ces étudiants qui nous écoutent de savoir concrètement où aller piocher quelle information pour pouvoir construire davantage sa carrière. Allez, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les antennes volume 3. Nous avons Madame Medjoum Tayou qui est avec nous. Elle est directrice générale de Sphinx Conseil Ingénierie pour l'ingénierie marketing pour les TPI, économie sociale et solidaire. Et Jessica Mambo, présidente de l'association Égalité pour tous, vous l'avez écouté, et les différentes activités menées au quotidien. Et quels sont les challenges? On s'en parle. Quelques challenges au quotidien, vous, Jessica, vous, dans cet accompagnement des jeunes dans la recherche de l'emploi avec l'association Égalité pour tous en tant que femme?
Alors, en tant que femme...
En quelques mots juste.
Alors, en tant que femme, justement, la difficulté, c'est que malheureusement, quand on vient avec un projet solitaire, parce que c'est un projet solitaire, n'est pas très commun, parce qu'on cumule plusieurs activités, on cumule les activités des cabinets RH, cabinets des conseillers d'orientation. Et donc, quand on vient avec un projet comme celui-là, on se demande, mais est-ce qu'une ONG, surtout dirigée par une femme, peut vraiment accompagner les jeunes? Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse?
D'accord.
Il a fallu du temps pour qu'on se construise justement cette identité professionnelle.
D'accord. Madame Medjoum, nous sommes en train de sortir de l'entretien. Un conseil à l'endroit de toutes les femmes qui nous écoutent, surtout la femme rurale.
Alors, la femme rurale, elle ne doit pas douter de son mérite.
Ouais.
Elle ne doit pas douter de son savoir-faire. La société va lui apporter toute la reconnaissance à la place qu'elle a, à la place de pivot qu'elle a, toute la reconnaissance à la technique, c'est-à-dire qu'au savoir-faire qu'elle a, mais il faut qu'elle accepte de s'engager dans les voies de la professionnalisation pour passer d'un savoir-faire artisanal à un savoir-faire, d'un savoir-faire artisanal informel à un savoir-faire artisanal reconnu, professionnel.
D'accord. Allez, Jessica, ces jeunes qui t'écoutent à la maison.
Alors, ce que je vais dire, c'est venez participer au jour, à la 6e édition des Journées de l'emploi et de la formation.
D'accord.
Il est difficile de trouver un événement comme celui-là où vous avez la possibilité d'être en contact direct, sans barrière, avec les décideurs. Venez avec vos CV. Venez avec vos CV parce qu'il y aura des offres d'emploi. Il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure, des chefs d'entreprise et des directeurs des ressources humaines. Ceux-là qui recrutent même en entreprise. Ne restez pas chez vous.
Allez, chers auditeurs, ne restez pas chez vous.
rendez-vous dans un instant, dans juste quelques grands rendez-vous, et on se dit au revoir.
Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h, avec Jules Farel. Quand ça finit à la radio, ça continue sur les réseaux sociaux. Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques.
N'éteins surtout pas ta radio.
Alors, on prend juste quelques rendez-vous et on se dit au revoir. Allez, grâce, on a quoi comme agenda dans l'agenda de la semaine? On a quoi comme agenda?
Alors, pour ce qui est de l'agenda, Women Music Business Training, c'est formation et accompagnement des professionnels de la filière musicale d'Afrique centrale. Événement 100% femmes qui aura lieu du 14 novembre 2025 au 30 avril 2026. L'événement aura lieu au marché des arts du spectacle africain Massa. Vous réservez une formation de 6 mois en ligne et 6 jours d'atelier présidentiel.
D'accord. Allez, mes chers auditeurs, merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine. L'émission Trajectoire, c'est terminé pour aujourd'hui.
Trajectoire, tous les samedis de 7h à 9h, avec Jules Farel. Quand ça finit à la radio, ça continue sur les réseaux sociaux. Tapez sur la barre de recherche Facebook, Trajectoire, vitrine des marques.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.